des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril. Jeudi 21h.
Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
La protectrice du citoyen dénonce l'immobilisme de l'État dans son rapport annuel et elle est là pour nous parler, Marie Rinfret. Bonjour, Madame Rinfret.
Bonjour, Madame Peterson.
Écoutez, vous êtes très dure dans vos propos, là. Vous parlez carrément de laxisme de la part de l'État, là.
Oui. À toute fin utile parce que plusieurs dossiers que je présente dans mon rapport annuel, je pense notamment là au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois, la responsabilité des soins de santé dans les établissements de détention, l'accès à un médecin de famille, bref, puis il y en a d'autres là. Ce sont des dossiers où on est prêt à un passage à l'action parce que tous ces dossiers-là ont été bien documentés, les constats sont faits, les analyses ont été faites et les propositions d'action sont connues. Ce qui reste maintenant, c'est le passage à l'action et c'est ce que je demande ce matin par la présentation de mon rapport annuel d'activité.
Oui, puis ce que vous dites aussi, Madame Rinfret, c'est que c'est ces problèmes-là là, qui ont été mis en lumière par la pandémie de la COVID-19, ce sont pas des problèmes qui datent de la pandémie. Là. On a des problèmes dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées depuis de nombreuses années.
Oui, et je les ai moi-même dénoncés à plusieurs reprises. On est intervenu dans des milieux de vie pour personnes âgées ou des personnes en lourde perte d'autonomie pour faire corriger des préjudices à la pièce. Hein. Quand on intervient dans un dossier, le taux d'implantation de nos recommandations et d'acceptation est de 100%. Donc, les correctifs sont apportés. Mais ce qu'on constate dans l'ensemble, c'est la pénurie de personnel, l'épuisement des effectifs. Et si on était passé à l'action dès le moment où les constats ont été connus, les milieux d'hébergement auraient pu être solidifiés de manière graduelle et continue au fil des dernières années pour répondre aux besoins de ces personnes. Et donc, on peut penser que la crise du COVID aurait pu être moindre. Puis c'est pour ça que de notre côté, on a amorcé en mai dernier, je l'ai annoncé publiquement, une enquête qui vise la gestion gouvernementale de la COVID-19, donc de la crise de la COVID-19, dans les milieux d'hébergement pour personnes âgées.
J'ai envie de vous entendre sur des propos tenus par Marguerite Blais qui ont été recueillis dans le cadre de l'émission Enquête. Madame Blais qui rejette en quelque sorte la faute, et là je mets des guillemets parce que je paraphrase, là, par rapport à tout ce qui s'est passé dans nos CHSLD, nous demande en fait d'interpeller Dr Arruda et le premier ministre François Legault.
Je n'ai pas entendu les commentaires de Madame Blais, mais indépendamment de tout ça, il y a des constats qu'on a faits au fil du temps, que moi j'ai fait comme protectrice du citoyen, que mes prédécesseurs ont fait aussi. Il y a d'autres rapports qui se sont ajoutés pour indiquer des pénuries de personnel, la vétusté des lieux également. Sur tous ces enjeux-là, on aurait pu agir plus tôt pour permettre à nos personnes âgées, à nos personnes en lourde perte d'autonomie, d'obtenir des services adaptés à leurs besoins pour avoir un milieu de vie et non pas uniquement un milieu de soins.
Oui, puis il y a la question de l'imputabilité aussi. Là, le premier ministre Legault le dit, dans le futur, les directeurs ou directrices d'établissement seront imputables.
Oui, puis écoutez, c'est des questions qu'on va examiner de manière rigoureuse, indépendante, impartiale aussi, hein, parce que moi, je ne relève pas du gouvernement. Là, je suis totalement indépendante. Donc, c'est un des angles de l'enquête qui a été amorcée en mars et pour lequel un rapport d'étape sera déposé d'ici la fin de l'automne.
Madame Rinfret, vous l'avez un peu évoqué tantôt, les lacunes. Là, on a beaucoup parlé des CHSLD, puis c'est normal là, avec la situation qui nous occupe, mais les lacunes que vous soulevez dans votre rapport, là, ils ne concernent pas seulement le domaine de la santé. Quels autres ministères sont problématiques?
Bon, écoutez, je vous référais tout à l'heure au traitement, au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois, qui est extrêmement lourd, compliqué, pas connu également. Le rôle du protecteur de l'élève est souvent contesté par les personnes qui s'adressent à lui. Donc, on avait demandé au ministère en 2017 de revoir ce mécanisme-là. Et le ministère, à l'époque, s'est engagé à déposer un projet de loi d'ici décembre 2019. On n'a pas une nouvelle. De notre côté, on fait toujours des rappels et on leur indique que, ben, indépendamment d'un projet de loi, on pourrait régler plusieurs irritants par la voie administrative. Un autre dossier qui me tient à cœur en termes de continuité des soins, c'est des enfants d'âge préscolaire qui ont des problèmes de langage, qui reçoivent des services spécialisés du réseau de la santé et des services sociaux et lors de leur entrée à l'école, soit l'intensité des services baisse énormément ou encore coupe complètement, en indiquant aux parents que c'est le réseau scolaire qui doit prendre le relais. Alors que, les deux missions ne sont pas les mêmes. Hein? Le réseau scolaire, c'est vraiment la réussite éducative, alors que en matière de santé et services sociaux, ben c'est la vie sociale, c'est le développement complet de l'enfant. Donc, on est intervenu à cet égard-là et il y a des analyses qui se font, mais on trouve que on met beaucoup de temps pour faire les analyses. Donc, on pousse un peu là pour obtenir une réponse plus rapide de la part du ministère afin que l'intensité des services soit maintenue auprès des enfants qui en ont besoin.
Allez-y. Non, allez-y.
Je voulais également porter à votre attention le dossier des enfants nés au Québec qui n'ont pas accès à l'assurance maladie en raison du statut migratoire précaire de leurs parents. Encore là, on nous dit l'an passé, quand j'avais soulevé la question, on nous a dit qu'on mettait en place un comité. Effectivement, le comité a été mis en place. Il y a eu des recommandations qui auraient été formulées. On nous parle que ça prend un projet de loi, alors que selon notre avis, selon mon avis, la loi, l'interprétation du règlement, en conjonction avec la Convention internationale sur les droits de l'enfant, nous permet d'accorder une carte, de donner une carte d'assurance maladie à un enfant citoyen canadien né au Québec, qui reste au Québec plus de 180 jours par année, malgré le statut de ses parents. Donc, vous voyez, c'est le genre de dossier qui me tient à cœur et pour lesquels nous, quand on a des dossiers de cette nature-là, des plaintes comme ça, les parents de ces enfants-là, on les réfère au ministre parce que le ministre a un pouvoir discrétionnaire d'accorder la carte d'assurance maladie. Et on le sait qu'il fait. Alors, mais ça, c'est juste pour ceux qui ont le réflexe de s'adresser à nous, puis à qui on réfère au ministre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne la règle, pas l'exception. Et c'est pour ça qu'on travaille très, très fort pour, porter à l'attention des parlementaires les dossiers que le gouvernement pourrait régler sans intervention législative, par une volonté administrative, puis que ça faciliterait, ça améliorerait les services publics québécois.
va rester dans le dossier de l'immigration. Là, vous signez aussi dans votre rapport que malgré les échecs, le ministère n'a toujours pas modifié ses façons de faire au niveau des demandes de parrainage de personnes réfugiées.
Oui, vous avez raison. En fait, l'histoire remonte à 2018 parce qu'avant ça, il y avait une interruption là des demandes de parrainage collectif. Donc, en 2018, en septembre 2018, le gouvernement fait un appel et à ce moment-là, on y va par la voie du premier arrivé, premier servi à l'accueil au ministère. Bon. Puis le premier qui dépose ses documents, ben c'est le fun, c'est eux autres qui vont pouvoir être étudiés. Alors, il arrive ce qui devait arriver. Il y a des gens qui ont contourné la file d'attente et qui se sont faufilés. Puis donc, il y a des gens qui attendaient depuis déjà beaucoup longtemps qui n'ont pas pu avoir déposé même les demandes qu'ils parrainaient. On a eu des plaintes, nous sommes intervenus pour demander au ministère de changer ses façons de faire. Il y a eu des études et là, coup de théâtre, on apprend qu'en 2020, que le ministère s'apprête à faire un nouvel appel pour les demandes de parrainage collectif. Celui-ci doit avoir lieu le 20 janvier et on procède encore de la même manière. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en file, qui se sont fait voler leur place à toute fin utile. Et ben là, on a reçu des plaintes et là, on est intervenu auprès du ministère pour et on fait des recommandations très formelles dans notre rapport pour lui demander une fois pour toutes de revoir ses façons de faire, d'examiner la possibilité d'utiliser le tirage au sort, le cas échéant, ou de proposer toute autre mesure qui peut être équitable pour l'ensemble des personnes qui veulent déposer une demande de parrainage et non pas se faire dépasser par quelqu'un qui a pu avoir une entente avec un courtier ou...
Oui, c'est ces espèces de Shylock de l'immigration, là.
Voilà.
Bon, je veux qu'on se laisse sur une note positive. Madame Rinfret, vous avez tenu à remercier dans votre rapport, à saluer le travail des membres du personnel soignant dans les CHSLD.
Oui. Oui. Et je vous remercie de me donner l'occasion de le faire de vive voix. On intervient, on a eu énormément de plaintes, de signalements de la part pas tant des usagers parce que c'est des personnes qui sont vraiment en situation de très grande vulnérabilité là, mais leurs proches, les personnes qui répondent pour elles ou encore du personnel soignant qui porte des situations inacceptables à notre attention. Et à chaque fois, on a pu voir des belles histoires de dévouement immense de la part notamment des préposés aux bénéficiaires auprès du personnel soignant. Et l'histoire qu'on raconte dans notre rapport annuel d'activité, elle est très concrète, elle est véridique. C'est l'histoire d'une femme qui était complètement désorganisée parce que un membre du personnel voulait changer sa culotte d'incontinence puis elle était pas, même pas capable de penser que quelqu'un pouvait la toucher. Et une préposée aux bénéficiaires qui a vu la situation, a pris les choses en main, a réussi à calmer la dame en entrant en relation avec elle grâce à de la musique, à l'apaiser, à lui changer les idées, à changer sa culotte et à la ramener là à de bonnes intentions avec tout le monde. Et ça, elle a pris de son temps, mais c'est ce qui a évité des crises d'agressivité qui font en sorte que ben, les personnes agressives, le personnel sont portés à les médicamenter, à avoir même imposé des mesures de contention. Oui. Alors, tout ça a été évité grâce à une préposée aux bénéficiaires. Et des histoires comme ça, il y en a beaucoup.
Oui, puis c'est important d'en parler. On axe souvent sur ce qui se passe mal. Les belles histoires, il y en a aussi. Madame Rinfret, merci. Marie Rinfret, qui est protectrice du citoyen, qui nous parlait de la remise de son rapport annuel. Merci beaucoup.